Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre par la pandémie de Covid-19. Mais avez-vous bien compris ce qu'est une pandémie et comment y faire face? Et pourquoi pas aborder ce sujet grâce au jeu? C'est le défi que s'est lancé une équipe de concepteurs de Xerius Game. J'ai le plaisir d'avoir avec moi les quatre auteurs du jeu Codroid 19, Susan Bossan, Mathieu Boucher, Delphin Darrault et Jérôme Nicolas. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Alors peut-être est-ce qu'on peut faire un petit tour de table et vous présenter en quelques mots?
Oui, on peut. Delphin?
Delphin, je suis conseiller innovation pour les entreprises.
Susan, moi je fais de la formation de formateur à la pédagogie active et je suis Xerius Game Designer.
Jérôme, je suis médiateur scientifique au sein du laboratoire Généton et accessoirement, je suis amené à concevoir un certain nombre d'outils justement et de faire du game design sur mes outils de formation.
Et moi, Mathieu Boucher, donc je suis médiateur numérique à Réseau Canopé et accessoirement, je suis auteur de jeux éducatifs.
Alors, il y a toute une équipe qui s'est mobilisée derrière le projet, parce que vous n'êtes pas juste vous, les quatre auteurs, il y a aussi plein d'autres personnes. Est-ce que, Susan, tu peux nous en parler?
Ouais, en fait, quand le jeu a pris un petit peu d'ampleur et qu'on s'est dit qu'on allait bosser un peu plus qu'un week-end pour s'amuser dessus, on a été chercher dans notre réseau, et puis pas que dans notre réseau d'ailleurs, aussi sur les réseaux sociaux, et on a une équipe qui s'est constituée super autour de nous parce que donc on a trois graphistes. Tiffaine Boilet qui est illustratrice, qui a fait tous les visuels du jeu. Lucie Henriot qui a fait toute la partie graphisme, mise en page des règles, des cartes, voilà. Et Miko Conte qui a fait toute la partie infographie avec Jérôme sur le débriefing scientifique du jeu. Donc ça c'est pour le côté graphiste, graphisme illustration. Et on a aussi une équipe qui s'est mobilisée sur la partie digitale du jeu qui est en cours. Et donc là, on a Lucas Simon qui nous a permis de démarrer, hein, parce que il avait l'expérience de mettre en ligne un jeu de plateau. Donc il a beaucoup bossé avec Delphin. Et puis là, on a une nouvelle personne, Rémi Thor, qui a rejoint l'équipe de codeurs. Et voilà, on espère que ça va avancer vite.
Alors, ce travail a abouti à la mise en ligne du jeu Codroid 19, donc d'abord en version print and play, donc à imprimer puis jouer. Et puis donc, on a entendu aussi que vous êtes en train de faire une version numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du jeu, en quoi ça consiste?
Oui, c'est un jeu... Alors déjà, il faut savoir que le jeu est totalement gratuit, hein, puisqu'on peut le télécharger sur notre site. C'est un jeu coopératif. C'est un petit peu récent. Les gens sont pas forcément habitués parce qu'en fait on joue contre le jeu. Donc toutes les personnes autour de la table sont ensemble et l'idée c'est il représente une intelligence artificielle qui gère un petit système planétaire avec des robots et il découvre qu'il y a un virus informatique qui est en train de se propager entre les robots. L'idée, l'intelligence artificielle doit gérer son petit système planétaire et ses robots pour éviter que le robot hôpital soit complètement saturé et donc essayer au maximum de pouvoir protéger la population de robots. Voilà. L'idée est de comprendre et d'expérimenter en fait les mesures de confinement et puis les gestes barrières qu'on applique maintenant depuis presque 2 mois chez nous. Voilà, mais de le faire dans un cadre un petit peu plus ludique.
Et alors, comment vous est venue cette idée de faire un jeu sur le Covid-19?
Ça, c'est la faute de Jérôme. Ou c'est grâce, je ne sais pas si on dit la faute ou grâce.
C'est l'effet un petit peu, je dirais, pervers de mon métier de médiateur scientifique où effectivement je commençais à voir depuis quelques semaines circuler sur les réseaux sociaux tous les Français qui commençaient à s'exprimer, à avoir son avis, c'est bien, c'est mal, il faut confiner, il faut pas confiner. Enfin voilà, on avait à peu près 67 millions de médecins experts qui étaient en train de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Voilà, donc moi qui suis amené justement à essayer de faire exercer l'esprit critique de chacun, au début du premier week-end de confinement, je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas faire un jeu. J'avais déjà publié 2-3 trucs moi sur mon Facebook, et donc j'ai lancé l'idée sur le WhatsApp du groupe. En fait, on est tous en train de faire un diplôme interuniversitaire qui s'appelle Apprendre par le jeu avec le centre de recherche interdisciplinaire. On est 26 dans la promo, et donc j'ai lancé l'idée sur le WhatsApp. En disant, est-ce qu'on se ferait pas une petite game jam, donc c'est-à-dire une création de jeu en quelques heures, quelques jours, autour du Covid-19.
On s'est dit oui. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, je me suis dit, ah ouais, c'est sympa, on va réfléchir un week-end, mais je pensais qu'on ferait un prototype et jamais que ça irait plus loin que ce. Enfin voilà, qu'un proto entre nous, je pensais pas que ça prendrait l'ampleur que ça a eu.
Ouais, parce que moi, quand on m'a vendu l'idée, on m'a dit, oh, tu veux t'occuper le week-end, viens faire le game jam. On m'a pas dit, ça va te prendre les 4 semaines qui suivent à bosser tous les soirs pour essayer de sortir quelque chose de propre, quoi.
Et pourtant, ben voilà, dès le dimanche, donc il y en a quelques-uns qui ont répondu. Mathieu était dedans et il est un peu à l'origine justement de la première du premier point de départ de la mécanique de jeu qui a été posée dès le dimanche matin, je crois.
T'as envoyé le message le samedi et pour moi c'était, j'ai pris ça comme un jeu, comme un défi. C'est pareil, je pensais pas que ça allait prendre autant de place dans mon emploi du temps depuis, mais dès le dimanche, ouais, j'ai envoyé mes premières idées.
Ouais, c'était vraiment là l'étincelle, parce que je sais, bon, on y a bossé, en fait, on a réfléchi à ce qui pouvait être fait le samedi, et puis je sais qu'avec Susan, on avait la chance d'être confinés ensemble, et du coup, pouvoir y réfléchir plus de vis-à-vis. Et puis on a pensé à des trucs, et le dimanche matin, Mathieu proposait une mécanique de jeu en fait qui mettait en pratique tout ce qu'on avait dans la tête, et c'est là où on a vu la première étincelle du truc, il y a quelque chose à faire, quoi.
Puis la deuxième étincelle, c'est clairement, moi j'ai posté un post sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et on a eu un nombre de retours, enfin voilà, j'ai eu un nombre de commentaires impressionnants, donc on s'est dit, on va peut-être aller plus loin, parce qu'on a une idée qui tient la route. Mathieu, il avait vraiment fait un super taf, hein, et puis avec des gens qui réagissaient, donc on s'est dit, ok, on va plus loin, quoi.
Et pourquoi, justement, pensez-vous qu'il y a eu autant d'enthousiasme autour du post LinkedIn ? Est-ce qu'il y avait une attente de la part des gens, de quelque chose comme ça ?
Ah, c'est le sujet du moment quand même. On parle un peu que de ça, donc je pense que les gens sont quand même très réceptifs à tout ce qui tourne autour de l'épidémie en ce moment. Puis on est en 2020 aussi. Les gens, ils ont envie de participer, ils ont envie de comprendre, beaucoup de monde quand même qui s'intéresse. Il y a qu'à voir justement la quantité de trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, c'est peut-être un moyen d'inclure des enfants, de pouvoir en discuter de manière un peu plus sereine.
Ouais, et puis je pense qu'il y a eu aussi aujourd'hui, les jeux pédagogiques, les serious games, il y en a de plus en plus, c'est plus connu, reconnu, et que ça intéresse pas mal de gens, en tout cas dans le réseau. Alors, effectivement, j'ai posté un post, je suis serious game designer, donc il y a plein de gens qui suivent mon profil qui sont intéressés par ce type de projet. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu autant de retours. Mais n'empêche que on voit bien dans le milieu professionnel, c'est des choses qui font réagir les gens et que les gens apprécient aujourd'hui la démarche de gamification. Donc un sujet d'actualité et de la gamification qui est tendance. Je pense que ouais, c'était ça.
Ouais, et puis il y avait, tu as cité tout de suite les gens qui intervenaient dessus. Et puis, bah, y avait bah, toi qui es game designeuse, il y avait Jérôme qui est médiateur scientifique, Mathieu qui est médiateur numérique. Du moins, il y avait... En fait, ça faisait Serious Game sérieux, quoi. C'était... ça faisait... on était quand même juste au début du confinement. Et je pense qu'il y avait aussi le côté... On apportait quelque chose avec une caution et qui changeait un peu de toutes les publications... dont Jérôme parlait, qu'on voyait, qui avait pas obligatoirement d'expertise derrière pour sortir quelque chose, quoi.
Justement, tu parles de la caution scientifique. Quelles sont les informations que vous avez voulu transmettre par le jeu, et puis sur quelles sources vous êtes appuyé pour faire ce travail-là?
Alors moi, je crois que c'est un peu moi qui ai émis justement le point de départ. Moi, c'était cette idée de courbe épidémiologique, parce que les gens comprenaient pas pourquoi on était confinés au mois de mars alors que il y avait, je crois à cette époque-là, peut-être 10 morts en France, quoi. Et beaucoup de monde n'avait pas encore compris qu'on s'acheminait vers plusieurs milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers de morts, peut-être même plus si on avait tardé encore plus. Et donc l'idée, c'était de pouvoir réussir à faire passer ça en utilisant le jeu, et donc que les gens puissent expérimenter l'aspect un peu exponentiel justement du démarrage d'une courbe de diffusion virale. Donc là, il fallait trouver la mécanique de jeu qui puisse reproduire ça.
Ça marche très bien avec les enfants. Aujourd'hui, on voit bien que les adultes, c'est assez intégré maintenant, le côté, on l'a tous vu, ce que je ressens moi en voyant les retours du jeu, c'est que voilà, on voit à peu près, on a l'impression de savoir en tout cas. Par contre, les enfants, c'est ultra pertinent de leur montrer que on part de 3 petits robots infectés et que très très vite et que ça monte de manière exponentielle réellement. Donc ça, c'est visuellement, c'est hyper impactant.
Ouais, mais d'ailleurs, on a dû le mettre dans les règles aux gens que c'était normal qu'au début il se passe pas grand chose, parce que je me suis fait la remarque la première fois qu'on a joué aussi, c'est qu'on se dit bah non, il marche pas notre jeu, parce que bah au final, au début, on fait un tour, deux tours, trois tours, où on se dit ouais, c'est bon, c'est facile à gérer, et puis là il y a un déclic dans le jeu, et puis ça monte, et on se dit ah ben mince, j'aurais dû prendre des mesures plus tôt, parce que en fait j'arrive plus à gérer ce qui se passe, quoi.
Bah, moi c'était les idées de départ que je voulais qu'on voit dans le jeu, c'était la diffusion d'une maladie, et puis qu'on puisse essayer de comprendre l'impact des gestes barrières qui ont été mis en place par les différents gouvernements. Et donc, je suis parti de cette idée-là, et c'est comme ça que j'ai proposé les mécaniques de jeu qui sont associées, avec des idées de déplacement, voilà.
Après, la difficulté, c'est vrai, c'était de coller un peu, et c'est là que Jérôme nous a beaucoup aidés, c'était de coller, de dire, dans les mécaniques qu'on met, en quoi ça correspond aux réalités statistiques.
Et à ce qu'on connaît du virus. Ouais.
Et là, on a essayé d'y coller, hein, parce qu'effectivement, les résultats du Dead 6 collent à peu près au ratio qu'on observe entre les personnes qui tombent malades, le nombre de personnes à qui on transmet, les personnes qui sont guéries, les personnes chez qui ça s'aggrave quand ils arrivent à l'hôpital et tout ça. On est à peu près dans les ratios observés dans les publications scientifiques aujourd'hui sur le Covid-19.
Et puis on a eu, c'est Mathieu qui a fait un super boulot de création de toutes les cartes mesures, en s'inspirant effectivement de ce qui était fait en France, dans les autres pays, en les pondérant pour qu'on puisse, que ça colle à ce qui était fait en France. Et puis peut-être justement dans les extensions possibles, il est en train de bosser dessus, donc je sais pas si on fait du teasing ou pas, mais sur des options pour agir, pour pouvoir agir pas comme ça s'est passé en France. Mathieu, peut-être, je ne sais pas, c'est toi qui fais le teasing ou pas.
Oui, l'idée, c'était, c'est ce qu'on s'était dit aussi, c'est que tous les pays n'ont pas réagi de la même façon. On voit qu'en Asie, ça ne s'est pas passé exactement de la même façon qu'en Europe. Et même en Europe, il y a des pays comme la Suède et puis au départ l'Angleterre qui avaient des approches différentes de la France. Et donc, l'idée, c'était de proposer des variantes, toujours avec le même matériel de jeu, mais qui permettent de prendre des décisions un peu différemment. Parce que ce qu'on a fait, c'est, enfin, l'idée c'était aussi de baser la possibilité de prendre des décisions en fonction du niveau de crise. Parce que c'est confiner les gens, c'est entre guillemets plus facile à imposer quand il y a beaucoup de morts que quand il n'y en a pas encore, quoi. Donc, mais par contre, il y a des pays, par exemple la Chine, je pense que s'ils veulent imposer à tout le monde de rester chez eux, je pense que c'est entre guillemets hein, plus rapide à mettre en place qu'en France, par exemple.
Personne discute.
Voilà.
Et du coup, ce serait des espèces de scénarios par pays. Du coup, ça se rapprocherait plus d'une simulation que d'un jeu, du coup.
Enfin, c'est vrai qu'on est déjà un petit peu dans une simulation, hein, malgré tout. Oui, ce serait des choses assez simples. Ça se jouerait surtout sur le coût des cartes pour jouer les cartes mesures qui seraient plus ou moins faciles en fonction du type de carte ou en fonction si on a une population qui est très obéissante, forcée ou. Ouais.
En fait, l'idée, c'est qu'il y a un peu. L'idée, c'est qu'on reste toujours dans le côté et dans le côté jeu et dans le côté information. Donc, en fait, il y a le côté, voilà les règles qui changent. Donc, pour prendre le cas d'une population plus docile, c'est de se dire, toutes les cartes mesures, par exemple, on peut les placer dès le début parce qu'elles n'ont pas de réel coût à placer parce que la population de robots et veut bien les accepter. Et à côté, c'est de faire des exemples de mini-scénarios, c'est-à-dire plus de rappeler ce qui s'est passé dans tel ou tel pays du monde, les timings et l'ordre des mesures et quelles mesures ont été mises en place. C'est toujours d'avoir ces deux côtés, et le côté jeu et le côté information réelle, quoi.
En fait, c'est l'intérêt du jeu pédagogique, quoi. C'est qu'on va pouvoir tester des mesures qu'on n'a pas prises en France, par exemple. On peut voir l'efficacité des mesures. Là, on est en train de se poser la question du déconfinement, puisque c'est d'actualité. Est-ce que, par exemple, de proposer aux joueurs de pouvoir enlever les cartes confinement et de pouvoir les supprimer au bout de 2 tours pour voir ce que ça fait. Clairement, ça permet de voir que si on déconfine trop tôt, le confinement n'a pas servi à grand-chose. Donc, c'est vraiment d'expérimenter et de voir les impacts des mesures, des différentes, de la chronologie de ces mesures, du moment où on les prend, du timing des mesures qui ont été prises ailleurs et pas chez nous, pour voir qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça nous apprend. Et Jérôme a travaillé sur tout un support de discussion pour éclairer sur le côté scientifique, mais aussi des questions à se poser pour faire le parallèle entre le jeu et la réalité.
Et les sources justement sur lesquelles on s'est appuyé, parce que justement l'idée c'était quand même d'être dans quelque chose de fiable. Donc j'ai été voir un certain nombre de sites très institutionnels et on va dire plutôt grand public déjà dans un premier temps, donc l'OMS, le ministère de la Santé, des choses comme ça. Et puis après, j'ai été voir des sites reconnus, donc on a l'INSERM, on a l'Institut Pasteur en France qui sont très reconnus. Bon, à l'international, il y a le Centre de contrôle et de prévention des maladies, notamment qui, en fait, je suivais un indicateur qu'on a entendu un petit peu dans les médias, ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui sont contaminées par une personne malade. Et cet indicateur-là, en fait, a beaucoup fluctué dans le courant du mois de mars, en fait. Donc actuellement, il est stabilisé entre 3 et 5 personnes contaminées. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai suivi un petit peu quasiment au jour le jour, parce qu'il y avait pas mal de publics qui sortaient, qui étaient assez contradictoires. Pour tout vous dire, ça fluctuait entre 1 et 9 personnes. Hein, donc, c'est ça, selon les publications. Et puis, comme on avait besoin quand même de vérifier, enfin la science, c'est quand même quelque chose qui bouge beaucoup. On était sur un sujet quand même qui était très qui changeait beaucoup d'un jour sur l'autre. J'ai voulu quand même confronter une discussion avec des chercheurs en immunologie, en virologie. Donc j'ai la chance de travailler dans un laboratoire de recherche où on a une directrice de recherche qui est spécialisée en immunologie. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle sur un certain nombre de points sur l'aspect immunitaire du virus. Et puis, j'ai fait valider le document par Ali Saïb, qui est enseignant-chercheur en virologie au CNRS, ce qui a permis d'avoir une discussion, justement, et de pouvoir relativiser un certain nombre d'informations. Dans le document, il y a des informations sur lesquelles on dit « ben, on ne sait pas ». Aujourd'hui, on en est là, mais on n'est pas sûr parce que les données sont pas suffisamment consolidées à ce jour, quoi.
Et après cette tirade, on voit bien pourquoi c'était important d'avoir Jérôme dans notre équipe.
Et justement, on ne sait pas tout aujourd'hui. Est-ce que le jeu pourrait être amené à évoluer en fonction des recherches qui sont menées sur le virus? Est-ce que vous pourriez le modifier par rapport à de nouvelles données qu'on pourrait avoir?
On va actualiser, ça c'est une partie du travail de Jérôme, d'actualiser le support et voilà. On parlait des évolutions du jeu sur les différentes mesures, sur le déconfinement, sur des modes de jeu qui vont suivre aussi en fonction de ce qui se passe.
Oui, après on essaye aussi quand on peut amener des facettes sur le côté ludique à en apporter. Là on a déjà sorti une extension, un mode compétitif pour les gens, parce qu'on avait beaucoup de demandes sur le côté, en fait, c'est vrai que les gens sont pas encore habitués totalement au mode coopératif, et du coup, on avait des remarques sur, mais on comprend pas qui joue contre qui, et du coup, on a sorti un mode compétitif où les gens jouent toujours en coopératif, mais en fait, ils notent les étapes qu'ils font, comme ça, une autre équipe peut refaire à peu près la même partie et voir s'ils s'en sortent mieux sur la même partie, d'où le côté compétitif. Voilà, il y a du moins, on travaille aussi, c'est Mathieu qui avance là-dessus, sur des supports pédagogiques pour les gens qui encadrent des enfants, qui encadreraient des enfants dans le cadre pour jouer à ce jeu.
Ce qu'on a remarqué, c'est que, ce que disait Susan tout à l'heure, c'est que ça marche très bien pour le moment en famille, hein, parce qu'on est, pour le moment, on n'est qu'en famille. Et l'idée, c'est de proposer un petit document d'aide pour que ce soit utilisé par des animateurs, des éducateurs, des enseignants éventuellement, pour avoir une base pour une discussion sur la période qu'on vient de vivre, en particulier par exemple lors des retours en classe, ça peut être un outil pour engager la discussion de manière un peu plus ludique que de faire une prise de parole directe.
À partir de quel âge vous conseillez l'utilisation de ce jeu?
Nos tests, ça a été nos enfants. Moi, c'était très intéressant avec j'ai des jeunes ados qui ont 11-13 ans. Et ça a été aussi intéressant avec la plus petite qui a 8 ans. Et vu que c'est un jeu coopératif, tout le monde peut discuter. Ça permet vraiment de discuter entre les enfants et les parents. Les enfants et les adultes, si on élargit un peu la cible, et donc à tout âge on peut retirer des choses, je pense, à partir du moment où il y a un adulte qui est là pour gérer un peu le jeu et la discussion.
Les apports vont pas être les mêmes en fait entre un enfant, moi j'ai testé avec ma fille qui a 7 ans, des enfants très jeunes vont avoir toute la partie, ce dont parlait Jérôme tout à l'heure sur la courbe épidémiologique, regarder la progression du virus et puis discuter un petit peu des mesures sans plus. Avec des enfants, des ados, eh bien, on va parler plus du rapport aux libertés individuelles, aux déplacements, aux mesures, à l'impact de ces mesures sur la population. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes. Chaque public va avoir ses apports, en fait, va s'approprier le jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut un médiateur. Le médiateur, c'est a priori l'adulte qui est soutenu par le support pédagogique qu'on a créé et qui est annexé au jeu, parce que il y a plein de questions qui permettent cette médiation. C'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser derrière dans pour les enseignants ou pour des personnels qui travaillent avec des ados, du personnel qui travaille dans le social. C'est vraiment intéressant comme objet de médiation. Pour les adultes entre eux, c'est un jeu qui est un petit peu long et donc la version digitale sera plus appropriée si on fait le ratio temps de décision par rapport à temps de jeu. Voilà.
Tu as une durée indicative
Sur le print and play, ouais, sur le jeu, on est entre une heure ou une heure et quart. En fait, ça dépend de la facilité dont les gens s'approprient les règles et la durée des premiers tours de jeu. C'est ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que les règles sont assez conséquentes, mais on peut les découvrir en jouant. Il n'y a pas besoin de lire le livret de règles en totalité. Il suffit de lire paragraphe par paragraphe, étape par étape, et on agit. Donc, en général, il faut un ou deux tours pour que les gens s'approprient les règles. Et après, on passe aux aides de jeu qui sont rédigées par Mathieu, qui permettent d'alléger en fait et d'aller plus vite. Donc, clairement, la première partie, mais comme tous les jeux, est un peu plus longue. Et puis après, ouais, on tourne aux alentours de 45 minutes, une heure. Quand on a les règles bien en main.
Alors vous, à travers cette expérience, qu'est-ce que vous avez appris, que ce soit sur la conception de jeux pédagogiques ou sur le Covid-19 ?
Moi, pour ma part, j'ai beaucoup... du moment où j'ai commencé à travailler sur le jeu, ça m'a recentré un peu sur les infos essentielles à suivre et sur... En fait, les apports de Jérôme sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur le Covid-19 dans le monde. C'est là que ça c'est vrai qu'il y a eu un grand apport plus personnel sur le suivi du Covid-19 en France et partout dans le monde et des indicateurs importants. Voilà.
Après, moi, j'ai... Alors, pas forcément d'apport sur le Covid. Oui, si, de la pertinence des infos de Jérôme, ça oui. Mais sinon, moi, je suis habituée à créer des jeux toute seule ou avec un ou une graphiste, mais pas tel qu'on l'a fait là. Et ça m'a appris que c'était possible. On a eu la chance d'avoir une équipe qui est top d'abord, franchement. Et puis qui est
dingue.
C'est ça. En tout cas, une équipe qui est hyper complémentaire. J'ai trouvé que c'était vraiment fluide de se répartir le travail, de compenser on travaillait tous à côté, donc de compenser chacun quand on pouvait les manques de dispo de l'un ou de l'autre, et puis de se centrer sur ce qu'on savait faire, de se faire beaucoup confiance. Donc ça, ça a été vraiment un apport de voir que c'était possible, et puis sur la gestion de la communication, sur la gestion de la relation avec les... Alors moi, j'ai un peu endossé le côté chef de projet avec les graphistes, et ça aussi, c'est instructif de bosser avec plusieurs personnes. Donc moi, j'ai appris plein de choses, c'était passionnant.
Oui, moi c'est l'aspect l'utilisation des outils collaboratifs en ligne. Là, pour le coup, on a été obligé de s'y mettre contraint forcé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Susan avait déjà quelques habitudes qu'elle a pu partager moi je trouve ça dingue qu'on ait réussi on est partout en France on n'est pas du tout les uns à côté des autres et pourtant j'avais l'impression que c'était une bande de potes qui se réunissaient tous les deux jours derrière sa caméra de visio d'ordinateur et puis on avait presque l'impression d'être dans le même bureau, quoi.
Et pourtant, on avait quelqu'un de Mâcon. C'est peu dire.
Je ne relèverai pas. Moi, de mon côté, ce que j'ai appris, c'est vraiment sur la communication. C'est pas du tout mon domaine de prédilection. Et je suis assez étonné et surpris. Et admiratif du travail qu'ont fait mes collègues pour la visibilité du jeu, la visibilité du site, tout ce qui a été fait en communication, je suis assez, assez impressionné. Pour un petit projet qui au départ devait nous occuper un week-end, je trouve que c'est...
L'objectif, c'est quand même que les gens téléchargent le jeu, donc ça serait dommage de passer à côté de la visibilité. Mais ouais, en tout cas, c'est chouette que ça prenne.
Donc nous, comment pouvons-nous vous aider en téléchargeant le jeu, en jouant, en faisant des retours?
C'est ça, donc en téléchargeant le jeu, en partageant l'expérience de jeu, en partageant le jeu aussi lui-même autour de vous, et puis en faisant des retours tous les jours, on a des petits retours sur des petites coquilles ou sur des questions en fait qui font qu'on améliore et l'aide de jeu, une nouvelle aide de jeu qui doit sortir, et là on a republié des règles parce qu'il y avait des petits points qui se comprenaient moins bien que ce qu'on voulait dans les règles, donc c'est vraiment ça. Voilà, nous, ce qu'on s'est donné après comme objectif, une fois qu'on s'est dit on en fait un vrai projet, c'est que vu qu'on y a passé du temps, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui le teste, qui y joue, et à chaque fois qu'on a un retour, comme quoi encore hier on a eu un retour qui nous faisait une remarque sur les règles, mais qui commençait par en fait j'en suis à deux parties, mes enfants adorent, voilà, c'est ce qui, on va dire, si qui nous apporte alors du bonheur, c'est un peu fort, mais ce qui, voilà, ce
la
qui est
satisfaction,
notre récompense,
en tout cas.
Ouais, de la satisfaction, et ce qui est notre récompense du travail passé, de se dire que
c'est utile
quoi.
Et on a combien de téléchargements, Delphin, ce matin?
Donc aujourd'hui on
passe la barre des 4000.
On passe la barre des 4000 téléchargements. Donc, c'est pour quelque chose qui commençait comme un projet d'un week-end, c'est bien. On ne s'est pas donné d'objectif en soi, donc 4000.
L'objectif, c'est 10 000.
Ouais, je me dis 10 000, c'est cool. Mais voilà, c'est juste que c'est rond, en fait. Vu que 1000, on a déjà fait. Donc...
Non, ce qui est cool, c'est que...
Le 3 mai, on est à 4 000.
C'est ça. En fait, en ce moment, on a entre 300 et 500 téléchargements jour. Donc, les 10 000 ne sont pas inaccessibles, en fait.
C'est clair. Alors, on va arriver à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez intervenir avant qu'on clôture? Quelque chose dont on n'a pas parlé éventuellement?
Ouais, on en a un. On est à la recherche de dev pour nous aider à finaliser la version digitale du jeu. Mais alors, moi, j'y connais rien du tout, comme quoi on est très complémentaires. Donc, je laisse la parole à Delphin qui pourra vous dire qui on cherche.
On a initié, donc comme on disait avec Lucas, on a initié le développement du plateau en ligne pour faciliter le déplacement des pions. On développe ça en JavaScript, HTML, CSS. Et du coup, on est toujours à la recherche de dev. Alors, c'est une ressource rare parce que il y en a beaucoup qui ont du boulot en ce moment, quoi, parce que dev, ça se fait très bien en télétravail. Donc là, il y a Rémi qui est au Japon, qui nous a rejoint. Donc, on peut faire un cycle 24-24 parce qu'il travaille la nuit, je travaille le jour. Mais sur nos temps libres quand même. Donc, s'il y a des devs qui sont motivés pour nous rejoindre, en fait, ça accélérera la sortie du jeu et digital. Et voilà, ce sera qu'un plus.
Super. Merci beaucoup à tous les quatre et bravo pour votre jeu Codroid 19.
Merci.
Merci.
Merci Mathieu.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.